chapitre 14, Marc chapitre 14 et à partir du verset 10. Judas Iscariote, l'un des douze, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ils écoutèrent avec joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya deux de ses disciples, et nous savons, dans un des autres évangiles, il s'agit de Jean et Pierre qui sont envoyés, ce sont les deux, et leur dit, « Allez à la ville, donc à Jérusalem, parce que Jésus reste la nuit à Béthanie, à 3 kilomètres de là, « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera, suivez-le, ou vous croisera. » Ils ne doivent rien dire à lui jusqu'à ce qu'il arrive à sa maison, d'après les autres évangélistes. « Et là où il entrera, dites au maître de la maison, le maître dit où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Il vous montrerait une grande chambre haute aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arriva avec les douze et pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister, à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « L'un des douze, celui qui met avec moi la main dans le même plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. » Mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. Nous allons rester jusque-là dans notre lecture. Nous allons parler du traître aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet qui peut-être nous réjouit au début. Mais Jésus parle du traître. Saviez-vous que 4 fois pendant ce dernier souper avec ses disciples, Jésus parle et reparle du traître qui va le trahir? Pourquoi ont-ils parlé à trois reprises, donc 4 fois, avec ses disciples ce soir-là? Pourquoi le Fils de l'homme est-il trahi? Jésus aurait pu être saisi par les pharisiens comme ça. Pourquoi, dans le plan de Dieu, est-ce que le Fils de Dieu est trahi? Nous allons essayer de réfléchir sur 4 choses ce matin avant de prendre la scène. Et la première chose, c'est une leçon au sujet de la providence souveraine de Dieu. Maintenant, rappelez-vous de la scène. Les disciples, jeudi, sont envoyés par Jésus, les deux, dans la ville, parce que c'est le moment où on prépare la Pâque, on tue l'agneau. Rappelez-vous que la Pâque, c'est cette célébration, ce repas, où on se rappelle de l'Exode. Dieu nous a délivrés de l'esclavage, de l'Exode, ce jour où nous devions tuer chacun un agneau, mettre du sang sur les linteaux de la porte, l'ange de la mort passe et tue le premier-né de toute Égypte, mais Israël est épargné de cette mort, de ce jugement, à cause du sang de l'agneau, parce que quand l'ange passe devant la maison d'une famille juive, il voit que quelqu'un est déjà mort, parce qu'il y a du sang sur la porte. Je dis quelqu'un, c'est un agneau qui était le substitut du premier-né de la famille. Nous comprenons très bien ce que ça veut dire. Mais c'est le 14 du mois de Nisan. Et c'est le premier mois du calendrier juif. Et c'est le moment où on tue l'agneau. Le soir arrive, et dès que le soleil se couche, ce n'est plus le 14 du mois de Nisan, c'est le 15. Maintenant, c'est vendredi. C'est le vendredi saint. Nous l'appelons comme ça parce que c'est le jour où le Christ est mort. Mais il est mort pour nous le lendemain, mais pour le juif, le jour commence à partir du coucher du soleil. Et pendant que tous les juifs sont en train de se réjouir, tuer l'agneau et manger l'agneau, le vrai agneau de Dieu, prédestiné avant le fondement du monde, dit Pierre, sans tache, est en train de s'apprêter pour verser son sang. Pendant ce repas, il va tout changer. Parce qu'au repas de la Pâque, il va s'emparer du repas de la Pâque, il va le changer en Sainte-Cène. Il va prendre le pain et il va dire, ceci est mon corps. Ne pensez plus au corps des agneaux qui vous ont sauvé en Égypte de la mort. C'est de mon corps maintenant que le repas doit graviter. Et il parle de son sang. Et il change tout. Le jour de la préfiguration est passé, je vous dis, mon corps, immolé dans quelques heures, est venu la réalité qui vous sauve, chers amis. Mais le traître est là. Judas est au repas. Jésus lui parle à un moment donné. Et le Seigneur sait très bien qui il est et ce qu'il va faire. Et comme vous avez vu dans notre passage, tout au début du repas, il dit ceci, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que Jésus dit cela tout au début du repas. Dans tout ce qui se passe dans les préparations et dans ces dires de notre Seigneur, il montre que c'est lui qui gouverne tout ce qui se passe. Il n'y aura pas d'accident dans la mort du Fils de Dieu. Ça ne viendra pas sur lui par surprise. Il ne sera pas pris au dépourvu. Il sait déjà et il veut que les disciples sachent qu'il sait. Parce qu'ils doivent savoir que ce que vous allez voir de terrible dans les heures à venir, je savais très bien. Je l'attendais. La providence souveraine du Seigneur. Et c'est sans doute pour cela que le Seigneur utilise un miracle pour préparer la chambre. Est-ce que vous avez trouvé bizarre que Dieu ne gaspille pas des miracles? Il ne fait pas un miracle juste pour faire un miracle. Pourquoi fallait-il que les deux soient envoyés à un endroit que personne ne connaît? Aucun des disciples ne savent avant de manger le repas où ils vont le manger. Et il y a une raison très simple. Il ne faut pas que le traître sache où le repas va se passer. Parce que Judas a déjà fait le contrat avec les leaders religieux et le repas de la Pâque est le moment parfait, mais parfait pour livrer le Fils de Dieu. Parce que c'est en ce moment que tout le monde est en famille. Pas dans des places publiques. Personne ne verra. Judas le sait très bien. Et il y a un autre problème, messieurs, dames. C'est que c'est Judas qui s'occupe de toutes les affaires pratiques des 12. C'est lui qui tient la bourse. C'est lui qui achète l'agneau. Et normalement, c'est lui qui allait savoir plus que les autres où on allait faire le repas. Donc Jésus envoie 2 autres disciples, mais il ne leur dit pas où il les envoie, parce que Judas est là. Et il entend tout. Il dit tout simplement, vous rencontrerez un homme, et lorsque vous arriverez à sa maison, vous direz au maître où est-ce que nous allons préparer le repas. Et de cette manière, par un miracle, par un homme averti divinement, sans doute un disciple de Jésus, ce maître de la maison, qui a su d'avance qu'il devait préparer cette pièce, et par cette providence de Dieu qui fait que oui, le serviteur va puiser son eau juste au moment où Pierre et Jean arrivent à l'endroit même, et disent, ben voilà un homme avec de l'eau. Le Dieu souverain contrôle tous les détails. Et le traître ne peut rien agir sauf en conformité avec la volonté de Dieu. Même le mal ne peut pas sortir du cadre du décret tout-puissant de Dieu. Ça doit être encourageant pour les disciples après, dans les heures après la crucifixion, où ils luttaient avec leurs doutes, de se dire, mais tout était, il avait tout dans ses mains, il savait. Il nous a dit qu'il allait être trahi. On l'a vu trahi dans le jardin par Judas. Il a dit que ça allait être un de nous, c'était un de nous. Et ce qui semble être l'accident le plus terrible, le plus inattendu de l'histoire, ils peuvent prendre courage et dire que non, il y a la providence toute souveraine de Dieu qui est derrière cette affaire. Nous abordons le deuxième point, une leçon au sujet du péché. Nous regardons dans notre Bible le récit historique de l'acte le plus vil peut-être de l'histoire. Je pense, oui. L'acte le plus noir, le plus haineux, le plus méchant, le plus ingrat de toute l'histoire de cette humanité qui est capable de faire des choses assez terribles. Je ne sais pas comment vous vous sentez lorsque vous entendez ces actualités comme moi, d'un couple qui avait tué et congelé 4 bébés. N'est-ce pas? Vous rappelez de cette histoire il n'y a pas longtemps, 1 an ou 2, d'un enfant qui tue toute sa famille et on les trouve dans leur sang le lendemain, n'est-ce pas? Mais ici, nous avons une trahison terrible. Parce qu'on trahit l'amour même. On trahit celui qui est pur et incomparable amour. En réponse à une bonté immense que Jésus a montrée à Judas, l'appelant à être un des 12, un des proches. Et quand il vient dans le jardin, vous rappelez, quand Judas vient ce soir-là dans le jardin de Gethsémané et il trahit Jésus par un baiser, Jésus dit, ami, est-ce par un baiser que tu trahis le Fils de Dieu? Il appelle ami et toute parole qui sort de sa bouche est complètement vraie et ressentie comme la parole le dit. Il sentait Judas son ami jusqu'au bout. Et probablement, il essaie une dernière fois par cette parole, par cette appellation, de le rappeler de son terrible forfait. Donc, Judas sait très bien que quand il trahit Jésus, il le trahit à la mort. Il va dire lui-même avant de se suicider, j'ai trahi du sang innocent. Du sang innocent. Du sang parce que je sais qu'il va mourir. Et voilà ce que je savais que je faisais lorsque je l'ai fait. Il y a des gens qui pensent que le péché, on ne parle pas beaucoup de péché dans notre société, mais ils pensent que nous faisons le mal seulement en réponse à quelque chose de mauvais. Tu m'as provoqué, c'est pour ça que j'ai fait ça. Je me suis fâché, mais tu m'as bien provoqué, n'est-ce pas? Eh oui, parfois, nous faisons le mal, nous rendons le mal pour le mal. Mais ici, nous voyons que l'essence du péché, c'est que nous rendons le mal pour le bien. Peut-être que vous avez envie de dire non, jamais, jamais. Quand quelqu'un me fait du bien, je ne vais pas lui faire du mal. Et peut-être dans beaucoup de relations humaines, c'est vrai, mais la Bible nous dit que notre cœur est allergique et contre à Dieu et contre Dieu, avant d'être né de nouveau. Et le mal est un mystère, que pour le bien que Dieu nous donne, regardez Adam et Ève dans le jardin, le paradis, le bien complet. Et qu'est-ce qu'ils rendent à Dieu? La trahison. Et nous le voyons réapparaître dans Judas. Regardez votre vie. Est-ce que Dieu ne vous a pas béni de bien des choses? Et si je me regarde, je sais combien de fois j'ai rendu à Dieu pour sa bonté envers moi le mal, la désobéissance, la négligence. Mais Judas s'est choisi comme un des douze et qu'est-ce que ça devait être? Je me demandais, j'essaie de me promener dans ma pensée dans ces 3 ans. Je me rappelle que Jean lui-même donne son résumé lorsqu'il dit ceci. Il dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous ». Il ne parle pas de vous parce que vous n'étiez pas là. Il parle de ceux qui étaient là et surtout les apôtres. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme celle du Fils unique venu de Père, rempli de grâce, rempli de grâce et vérité. Et nous avons tous reçu, nous les apôtres, nous avons tous reçu de sa grâce et grâce sur grâce, grâce sur grâce pendant 3 ans. Judas est doué par le Seigneur, il fait des miracles, comme les autres. Il jouit d'une amitié intime. Et vous avez bien vu que quand Jésus annonce qu'un des 12 va le trahir, tout le monde dit, mais c'est qui? Tout le monde dit, ah non, non, c'est Judas. Parce que Jésus n'était pas si proche avec lui. Et puis on a vu, non, 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 c'était pas comme ça, chers amis. Le mystère de l'iniquité. Et après tout ce bien que le Seigneur donne à Judas, cette proximité, une amitié comme vous n'avez jamais vécu. Toutes les 11 autres, leur témoignage c'est « on n'a jamais été aimé, aimé, aimé comme ça ». Et c'était la même chose pour Judas. Et il le trahit à la mort. Le plus grand péché contre le plus grand amour. Maintenant, nous devons quand même nous poser cette question. Comment est-ce possible qu'on puisse répondre à un tel amour par un tel mal? Nous avons peut-être une petite indication. Je ne vous dis pas que je peux tout expliquer. Mais je veux vous donner juste un indice à réfléchir pour vous-même, parce que nous devons faire face à notre péché, n'est-ce pas, devant Dieu. Voilà cet indice. Je vous lis dans Matthieu chapitre 6, dans le sermon sur la montagne, où Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, Ou il s'attachera à l'autre et méprisera, s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon, c'est-à-dire l'argent. Maintenant, quand nous lisons les évangiles, nous découvrons ceci dans ce même évangile de Matthieu au sujet de la trahison de Judas. Nous lisons ceci. Je crois que ça doit être chapitre 26. Oui. Matthieu 26, 14. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: « Que voulez-vous me donner ?» Vous avez entendu ?« Que voulez-vous me donner ?» Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Et vous vous rappelez, la semaine passée, nous avons vu que lorsque Marie de Béthanie a versé sur Jésus ce parfum très cher, c'est Judas qui s'est fâché parce que c'était beaucoup d'argent. Comment est-ce que nous pouvons rendre le mal un mal terrible pour le bien? Le problème du péché, dit la Bible, est lié au problème de l'idolâtrie. C'est-à-dire, quand j'ai un Dieu dans mon cœur, je vais s'attacher à ça et je vais mépriser le vrai Dieu, si le Dieu que j'ai n'est pas le vrai. Je vais haïr le vrai Dieu si j'aime un faux Dieu. Et vous ne pouvez pas aimer mammon, l'argent et le vrai Dieu. Le cœur humain fonctionne comme ça. Nous étions faits pour que Dieu nous remplisse le cœur et nous donne lui seul la satisfaction, son amour, sa grâce, sa bonté. Mais nos cœurs se tordent et nous voulons trouver notre bonheur où? Voilà un homme qui est marié à une femme qui est formidable. Il a des enfants très super, mais cet homme a un Dieu dans son cœur. Ce Dieu, c'est le succès. Le succès au travail. Peut-être un peu l'argent aussi. Mais au fil des années, il est de plus en plus plongé, obsédé, pris dans son cœur, pris dans sa tête, pris non pas avec sa femme et ses enfants, mais pris ailleurs. Parce que ce qu'il veut dans son cœur, la chose qui prime dans son cœur, c'est-à-dire son Dieu, c'est le succès. Pourquoi veut-il tellement cela? Vous voyez? Et il arrive qu'un jour, il n'a plus sa femme, il n'a plus ses enfants, il perd ce qui lui était très cher. L'idolâtrie mène à beaucoup d'autres problèmes, beaucoup d'autres maux. Je veux vous citer les propos d'un écrivain de roman qui a dit ceci devant les étudiants d'une université dans la convocation de fin d'année. Lorsqu'on donnait les diplômes, ce monsieur était l'orateur principal et il a dit ces choses peu avant de se suicider en fait. Cet homme s'est suicidé, il a écrit des romans, mais il s'est donné la mort peu après avoir parlé devant cette cérémonie de fin d'année. Alors, je traduis d'anglais, donc excusez-moi, je lis en anglais, je vais vous le dire en français. Tout le monde adore, c'est-à-dire un objet d'adoration, un Dieu. Le seul choix que nous avons, c'est qu'est-ce que nous allons adorer. Mais vous allez adorer. Vous allez avoir vraiment un Dieu dans votre vie. Et la raison forte pour peut-être, cet homme n'est pas croyant, hein, mais vous voyez, il arrive, il va prendre sa vie. Vous pouvez comprendre pourquoi il réfléchit de cette manière. Et la raison forte pour peut-être choisir une sorte de Dieu du type spirituel, c'est-à-dire religieux, afin de l'adorer, c'est que à peu près toutes les autres idoles que nous pouvons adorer vont nous dévorer complètement, vont nous manger cru. Si tu adores l'argent et les choses matérielles, si c'est là que tu trouves le vrai sens dans la vie, tu n'auras jamais assez. Tu vas jamais sentir que tu as suffisamment. Rockefeller a dit, quand on lui a posé la question, combien d'argent est suffisamment d'argent? Il a dit, un peu plus. Ce monsieur continue. Si tu adores ton corps, si tu adores la beauté, l'attraction sexuelle que tu peux avoir, tu vas toujours te sentir laide. Et quand le temps et l'âge commencent à faire leurs dégâts, tu vas mourir un million de morts avant que ces dieux commencent à t'attrister. Ces dieux de la beauté. Il dit, si tu adores la puissance, tu vas finir par te sentir faible et craintif. Et tu auras toujours besoin de plus de puissance sur les autres afin de démousser ta propre crainte. Si tu adores ton intellect, ton intelligence, si tu as besoin plus que toute autre chose qu'on te voit comme brillant, tu vas finir par toujours te sentir un peu stupide. Un fraudeur, toujours sur le point d'être exposé, comme ignorant ici et là. Mais la chose terrible au sujet de ces formes différentes d'adoration, c'est qu'elles sont inconscientes, elles sont les paramètres de défaut chez l'homme. C'est-à-dire on a tendance à adorer des trucs sans savoir qu'on est en train d'en faire un dieu. Voilà, par cette manière, les hommes sont poussés à toutes sortes d'extrêmes et toutes sortes d'actes terribles parce qu'ils doivent avoir. Et vous remplissez le vide, leur Dieu. C'est peut-être pour ça que les disciples, chacun se demandait ce soir-là, quand Jésus a dit « Un de vous va me trahir », chacun a dit « Est-ce moi ?» Seigneur, je trouve ça absolument incroyable, formidable. Pour une fois, les disciples avaient la bonne réaction, n'est-ce pas? La bonne réaction, c'est de se méfier de soi-même et de savoir que le péché en moi, si je suis laissé à moi-même, si Dieu ne travaille pas en moi, peut aller beaucoup plus loin que je n'ai jamais pensé. Je parle de moi en premier. Voilà. Ça, c'est le deuxième point et le plus long. Maintenant, une leçon. Nous avons parlé d'une leçon au sujet de la providence, une leçon au sujet du péché de Judas. Et maintenant, une leçon au sujet du jugement. Lisez avec moi le verset 21 dans le texte de Marc 14. Verset 21. Jésus dit, le Fils de l'homme s'en va à la mort, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour lui, pour cet homme, ne pas être né. Jésus parle du jugement, n'est-ce pas? Mieux vaut pour Judas de ne jamais avoir été né. En raison du jugement éternel qui tombera sur lui par le Dieu saint. Maintenant, chers amis, nous savons qu'aujourd'hui, les hommes aiment faire dans leur tête, imaginer dans leur tête, un Dieu à qui on peut faire n'importe quoi. Et pourtant, ce Dieu est obligé de nous amener au paradis à la fin, n'est-ce pas? Un Dieu envers qui on peut agir de n'importe quelle façon, sans conséquence. Parce que Dieu est amour. Et Dieu est amour. Mais Dieu est aussi justice. La Bible dit ceci, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Judas a trahi entre les mains des pécheurs le Fils de l'homme. Mais il s'est retrouvé après entre les mains du Dieu vivant. Et ce sera le même pour vous et pour moi. Il y a un mystère de souveraineté divine et de responsabilité humaine ici. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit, c'est sûr, c'est écrit, c'est ordonné, c'est décrété depuis l'éternité par Dieu. Mais malheur à l'homme par qui il s'en va, il est trahi. Nous voyons que ça va se passer comme ça, mais Judas Iscariote agit selon son bon gré. Il agit selon sa volonté. Il fait ce qu'il veut. Dieu ne le pousse aucunement à faire cet acte. Dieu ne peut tenter personne, dit la Bible. Dieu ne pousse aucunement Judas dans cette direction. Tout vient de lui, de son mal, de sa cupidité, de son avarice. Et donc, ce mystère est impossible pour nous de comprendre comment Dieu peut gérer, gouverner même le mal, et pourtant la responsabilité et l'acte restent le propre de l'homme pécheur. Mais arrêtons-nous sur ces mots, mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Je voudrais vous dire, chers amis, que ce qui est le meilleur pour l'homme, un homme individuel ou l'homme en général, ce qui est le meilleur pour l'homme n'arrive pas toujours. Il y a des gens qui pensent que, comme Dieu est bon, il est obligé de toujours agir en sorte que le meilleur pour chaque homme arrive. Et pourtant, nous lisons ici, « Mieux vaudrait pour cet homme de ne pas être né. » Je m'explique. Quand nous disons que Dieu est obligé de faire en sorte que dans le script de ma vie, hein, ma vie est comme un film, que à la fin, tout va bien pour moi. C'est vrai si je suis le héros du film, si le film tourne autour de moi. Mais vous savez, dans un film, si tu n'es pas le personnage principal, il y a des gens qui meurent à côté, n'est-ce pas? Et les hommes pensent que nous sommes Dieu et que le Créateur doit agir en sorte que ce soit nous qui finissons pour avoir tout le bonheur. Le problème, c'est que dans la vie, si je peux prendre une image humaine, nous sommes capables de casser la bonté que Dieu voudrait nous donner par notre péché. Voilà un homme de 18 ans. Mais pour les hommes de 18 ans en France, en tout cas, le meilleur pour leur vie et leur vocation future, etc., ce n'est pas toujours cela qui arrive. Et ce n'est pas toujours cela que l'État français leur donne ou leur rend possible. Voilà ce jeune homme de 18 ans, on lui met en prison pendant 20 ans. C'est pas la meilleure chose qui puisse lui arriver. On pourrait dire, oh, il aurait mieux valu pour lui de ne pas être... Il a une vie gâchée, parce que quand il sort, vous savez ce que c'est que de sortir après 20 ans en prison. Mais pourquoi? Est-ce que cet homme ne reçoit pas le meilleur pour lui? Parce qu'un jour, avec deux autres, il a braqué une banque et il a tué de sang-froid un policier qui était présent. Et ainsi, il s'est lui-même soustrait du plan pour sa bonheur que L'État français voulait lui donner en normalement protégeant, en donnant des allocations, en ouvrant le chemin vers des formations. L'État français fait beaucoup de choses, mais lui-même, il s'est enlevé de cela par un acte tellement horrible que la justice doit punir. Parce que l'individu ne peut jamais tromper toute la société, la justice, le vrai, en faisant tout ce qu'il veut et en obtenant comme conséquence tout le bien dont il a envie. Et dans le royaume de Dieu, c'est un peu comme ça aussi, n'est-ce pas? Ça s'appelle la justice. Et c'est pour cela que Jésus dit, mieux vaut pour cet homme de ne pas être né. Si jamais quelque chose aurait pu arrêter Judas, s'il avait un peu de... vraiment un peu d'ouverture dans son cœur, ce soir là au souper, c'est d'entendre ces mots-là de son Seigneur qui ne lui cache rien. Mais vous savez que lorsqu'on est déterminé, rien ne peut nous arrêter. J'ai eu des gens qui m'ont dit dans les universités, lorsque je travaillais sur les campus et je faisais du porte-à-porte, qui m'ont dit... face à face, je préférerais aller à l'enfer pour l'éternité que de suivre Dieu. Et ils m'ont dit, au moins tout était clair, n'est-ce pas? En tout cas, Judas est déterminé et c'est seulement après l'acte et après la condamnation de Jésus, quand il voit ce qu'il a fait, parce que notre péché nous aveugle, n'est-ce pas? Lorsqu'un homme se met avec une femme qui n'est pas la sienne, en lisant dans une affaire, donc il ne réfléchit pas aux conséquences. Il s'aveugle, il ne pense pas volontairement. Il ferme sa pensée à toute considération pareille. Et c'est seulement après, quand il a gâché sa famille, qui se réveille et il dit, ah, il y avait l'hameçon en dessous de l'appât. Le dernier point est très court, c'est simplement que une leçon au sujet des souffrances de Jésus. Je vous ai dit au début du sermon, pourquoi est-ce que Jésus doit être trahi? Pourquoi est-ce que les responsables ne viennent pas le prendre comme ça un jour? Et pourquoi est-ce qu'il doit être trahi par un ami intime? La raison sans doute, c'est que cela fait partie des souffrances par lesquelles il nous rachète et il nous sauve. Donc quelques heures, parce qu'il est l'homme à notre place devant Dieu, il va souffrir la colère de Dieu pour nos péchés. Et ça, c'est terrible. Mais avant d'y arriver, parce qu'il est aussi Dieu devant les hommes, il est homme devant Dieu à la croix, mais ici, il est Dieu devant les hommes, il va subir ce que les hommes vont faire lorsqu'ils ont Dieu entre leurs mains. Et il va expérimenter le péché de l'homme dans toute sa cruauté et dans toutes ses formes. Et je ne sais pas pour vous, si vous avez vécu une trahison, vous avez vécu une trahison par quelqu'un de proche, quelqu'un que vous avez vraiment aimé. Moi, j'ai vécu ça dans le pastorat plus d'une fois, et je dois vous dire, c'est les seules fois où je pensais que j'allais quitter le ministère chrétien. Être persécuté par les gens du monde, tout cela, on peut bien le supporter. Mais lorsque c'est quelqu'un qui était ton frère, que tu as aimé, tu sais que tu lui as donné tout ce que tu pouvais, et par finir, il veut te calomnier, il essaie de tout faire pour mettre fin à ta réputation et à ton ministère. Waouh ! Là, tu comprends la cruauté humaine. Et Jésus doit boire jusqu'à la lie tout ce que le péché signifie. Est-ce qu'il y a jamais eu un chagrin comme mon chagrin ? Dit le prophète qui parle de la voix du Messie avant que le Messie vienne. Et là, nous y sommes. Les disciples vont l'abandonner dans quelques heures, tous, après tout ce qu'il a fait pour eux. Le principal va le renier qu'il a jamais connu. Et un des amis les plus intimes le trahit à la mort. Et tout ce que le péché signifie tombe sur le Fils de Dieu qui n'a rien fait de mal. Et c'est comme cela qu'il vous sauve et qu'il me sauve. Nous allons chanter à la gloire de notre Seigneur le numéro 118 avant de passer à la scène.